Monsieur Maurice Bardel, nous sommes ici réunis pour parler des parcs nationaux et en particulier du parc national de la Vanoise que vous dirigez. Et pour parler de ce sujet nouveau, vous avez prié deux personnes que je voudrais vous demander de nous présenter. C'est d'abord Monsieur Alfred Moulin.
Monsieur Alfred Moulin, qui est mon adjoint, qui est ingénieur des travaux des eaux et forêts, et le docteur Paul Liégeon, qui est président de la commission permanente du conseil d'administration du parc national.
Monsieur Bardel, qu'est-ce qui a été à l'origine de la création du parc national de la Vanoise? Est-ce que ce n'est pas l'étranger qui nous a donné l'exemple dans ce domaine?
Effectivement, les événements qui sont à l'origine de la création du parc national de la Vanoise remontent en fait à plus d'un siècle en arrière. Vers le milieu du siècle dernier, en effet, les derniers bouquetins vivant dans les Alpes avaient trouvé refuge dans les réserves royales de chasse du roi d'Italie Victor Emmanuel II. Ces derniers bouquetins représentaient une harde de moins de 10 individus. Ils auraient certainement disparu du monde vivant si Victor Emmanuel II n'avait pas pris des mesures draconiennes pour assurer leur protection et leur survie. Victor Emmanuel III, son petit-fils, qui n'avait pas hérité de la passion de la chasse de son grand-père, devait faire don de ses réserves royales de chasse à l'État italien en 1923, à condition que ces réserves soient classées en parc national. Le parc national du Grand Paradis devait évidemment assurer une protection tout à fait remarquable de l'ensemble du reste du biotope naturel, faune, flore. Et les bouquetins des Alpes, au nombre de 10, donc au milieu du siècle dernier, atteignent actuellement près de 3500 individus. Il est certain que les bouquetins des Alpes ne connaissent pas les frontières des hommes. Et dans les années qui ont précédé la dernière guerre, bon nombre de ces bouquetins franchissaient la frontière et venaient donc tomber sous les balles des braconniers français des Hautes-Vallées, de l'Arc et de l'Isère. D'où une série de démarches du gouvernement italien, des autorités du parc national suisse du Grand Paradis, auprès des autorités françaises, pour obtenir qu'on assume du côté français une protection équivalente de cette espèce. L'idée prend donc naissance vers 1935 de créer non pas un parc national, mais une réserve de chasse dans la région du col de l'Isran. Cette réserve donna lieu à des études, sa réalisation s'avéra impossible du fait de l'hostilité justement des braconniers des Hautes-Vallées. Les choses en seraient certainement restées là, si au lendemain de la guerre, les problèmes de la protection de la nature n'étaient pas venus au devant de la scène, non seulement sous l'aspect protection de la flore et protection de la faune, mais également protection de l'homme. Le projet repart donc vers 1955. Il est mis à l'étude par le Conseil national de la protection de la nature et ces études aboutissent à un projet plus complet que les réalisations existantes actuellement à l'étranger, car à la notion précisément de protection de la nature dans le parc proprement dit, la conception française a ajouté une idée nouvelle, la protection de l'homme, la sauvegarde des montagnards dans les hautes vallées alpines. La Vanoise est une région extrêmement riche du point de vue du sol, du point de vue de la flore, du point de vue de la faune. Au point de vue sol, nous sommes en effet dans une des régions géologiques les plus complexes des Alpes. Et il y a encore beaucoup à trouver sur la géologie de la Vanoise, en dépit des travaux considérables du professeur Hélène Bercher. En ce qui concerne la flore, la Vanoise occupe une position de carrefour. Elle est à la limite des Alpes du Nord et des Alpes du Sud. Et elle est soumise aux influences atlantiques, mais également soumise aux influences piémontaises. Et enfin, elle est comprise dans la zone intra-alpine qui représente dans les Alpes un type de climat tout à fait particulier, très sec, auquel est liée une végétation très particulière également. Quant à la faune, eh bien c'est la faune de la haute montagne avec les espèces classiques de l'altitude, la marmotte qui est restée très abondante, le lièvre blanc, qui n'est pas rare, mais qui est très difficile à voir, car vous savez que l'hiver, il prend une livrée absolument blanche, à l'exception de la pointe des oreilles qui reste noire. Le chamois, l'aigle royal, qu'on croyait disparu, mais qu'on a pu non seulement observer à maintes reprises, mais même photographier au nid, et puis surtout, évidemment, le bouclin des Alpes.
Monsieur Moulin, voulez-vous nous décrire la physionomie du parc national de la Vanoise ?
La conception des parcs nationaux français est la suivante, un noyau intérieur, parc national proprement dit. Alors, en Vanoise, 60 000 hectares de haute montagne, comme vient de vous le dire, monsieur le directeur, comprise entre les hautes vallées de la Maurienne, l'Arc, et de la Tarentaise, l'Isère. Le parc fait sensiblement 60 km de long à vol d'oiseau sur 40 km de large. À signaler deux zones un peu spéciales en bordure du parc national en Tarentaise, ce sont les réserves naturelles de Tignes et Val d'Isère. Ce sont deux régions d'un régime un peu spécial, plus souple que le parc national, puisque dans le parc national, sites, faune et flore sont protégés, alors que dans ces réserves naturelles de Tignes et Val d'Isère, qui correspondent en somme à la zone d'extension de ces deux grandes stations de ski, seule la faune et la flore continuent à être protégées, mais les sites ne le sont plus. C'est-à-dire qu'on peut y construire à l'intérieur de ces réserves naturelles des téléskis, des télésièges, voire même amener le bulldozer pour aménager des pistes de ski. À l'intérieur du parc national seront créées des réserves intégrales, c'est-à-dire des petits territoires qui seront mis à l'abri des dévastations du public. Ce seront des réserves intégrales à but scientifique. Elles viseront notamment à la protection, par exemple, d'associations végétales rares. Elles pourront également viser à protéger la faune des grands mammifères notamment, des chasseurs photographiques. Car on sait bien entendu que, et nous espérons d'ailleurs que le public viendra de plus en plus nombreux, et on sait que dans ce public, il y a beaucoup de chasseurs photographiques. Et l'exemple dans la région, notamment de la réserve cynégétique des Bauges, nous prouve que si l'on ne crée pas des îlots de repos aux grands mammifères, ils sont quelquefois à longueur de journée poursuivis par les chasseurs photographiques.
Vous avez parlé d'une zone périphérique du parc. Qu'est-ce que c'est que cette zone périphérique ?
Une zone d'accueil destinée à la fois à permettre aux paysans de la montagne de trouver dans une forme originale de tourisme les ressources d'appoint dont ils ont besoin pour pouvoir vivre dans des conditions qui sont difficiles, avec une agriculture difficilement rentable, n'est-ce pas ? Mais également une zone d'accueil pour les citadins qui, eux aussi, auront de plus en plus besoin de venir se retremper dans une nature intacte, dans une nature silencieuse, où ils pourront profiter donc du calme, du silence, et en même temps reprendre un contact avec les choses de la terre dont ils se trouvent de plus en plus éloignés du fait même de la vie à caractère de plus en plus citadin.
Nous essaierons de provoquer une rupture chez le visiteur qui, lorsqu'il quittera sa voiture, sera obligatoirement amené à marcher très peu, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, mais une rupture entre la vie moderne et trépidante et la pénétration dans le parc, zone de silence, où l'on peut admirer la nature sans bruit, puisque également les transistors sont interdits dans le parc. Autre équipement important, bien entendu, qui est en cours de réalisation, c'est la création d'une chaîne de refuge, car le camping est interdit dans le parc. Alors, ces refuges, 5 existaient avant la création du parc national. Ce sont des refuges du Club Alpin Français. Nous venons d'en construire 4 qui seront ouverts en 1969. Et là, nous heurtons évidemment une difficulté importante, c'est que ces refuges à construire en haute montagne, sans moyen d'accès, nous coûtent fort cher puisque nous devons transporter les matériaux par hélicoptère. Si bien que nous nous sommes orientés vers une formule un peu nouvelle, création de ce que nous appelons des cabanes-refuges, qui sont de petits chalets tout en bois, mais très bien isolés, qui ont l'énorme avantage de se construire en une semaine, alors qu'un refuge en dur nous demande quelquefois 2 ans de construction, et qui évidemment nous coûte beaucoup moins cher. Et ces cabanes-refuges font malgré tout 14 places.
À la lumière de ce que vous venez de nous dire, est-ce que l'on peut dire que le parc national de la Vanoise va être une sorte de musée de la nature ?
Oui, certainement, mais j'insiste sur le fait que c'est un musée vivant, n'est-ce pas ? On ne verra pas les plantes en herbier, ni les animaux empaillés. Mais ça n'est pas qu'un musée vivant, c'est également un laboratoire vivant. Vous savez que de plus en plus, les études écologiques prennent de l'importance. Or, les études écologiques, ce sont des études du milieu naturel. Eh bien, quel plus beau laboratoire que cette Vanoise, avec 60 000 hectares de milieux naturels, soigneusement préservés des sévices de l'homme.
Est-ce que vous avez eu déjà à sévir et qu'est-ce que vous comptez faire pour sévir contre ceux qu'il faudra bien appeler des vandales ?
Remarquez, c'est l'éducation du public qui compte. Si les promeneurs du parc lisent les commandements de Samivelle avant de rentrer, je pense qu'ils s'en imprégneront et les observeront.